Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès à la foi, par la foi à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On voit que Dieu fait tout pour qu'on puisse l'expérimenter, cette réconciliation. En effet, lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Puis ces pécheurs-là, c'est toi et moi. Hein? À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons sauvés de lui, par lui de la colère, exactement. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons la réconciliation. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Ah oui, c'est ça, c'est parfait. Je vais avancer un petit peu. On avait vu que cette réconciliation avec Dieu était incroyable. Elle était d'autant plus fantastique que, premièrement, elle prouve l'amour incroyable de Dieu pour toi et pour moi. On avait parlé du fait que il y a un grand contraste entre Dieu et nous dans cette rencontre en Jésus-Christ. Nous qui sommes, avant même qu'on soit disposés à revenir à Dieu. Il y en a certains d'entre nous qui cherchent Dieu, pour beaucoup d'entre nous, et c'était mon cas, Dieu il est comme venu me chercher. Quelqu'un est venu me parler de l'Évangile, puis au début, c'était à reculons que je l'écoutais, mais Dieu est venu me réconcilier avec lui. Il y a vraiment deux attitudes différentes. Nous, on est sans force. Nous, on est pécheurs, coupables devant lui. Et Paul dit même qu'on est les ennemis de Dieu par notre attitude, par la position dans laquelle on est. Mais Dieu a décidé, je vais aimer, je vais réconcilier, je vais pardonner, je vais aller chercher cette personne qui est devenue hostile ou indifférente ou complètement confuse au sujet de qui je suis vraiment. Dieu est bon. Dieu est bon. Et ce texte veut qu'on rentre là-dedans. Ce texte veut que vraiment, on ne tombe jamais dans cette idée que peut-être que Dieu ne m'aime pas ou peut-être que l'amour de Dieu est faible. Non. Ce que Dieu a fait pour nous en Jésus, c'est un amour incroyable. C'est une initiative unilatérale de sa part. Alors, Je continue la révision de la semaine passée avec ce deuxième point. C'est que cette réconciliation à Jésus nous établit dans une sécurité extraordinaire dans l'amour de Dieu. Alors, il y a un verset qui dit que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, ce qui ne peut se renier lui-même. Et ça, c'est tellement important parce que nous allons parfois être infidèles à cet amour. Nous allons être chambranlants dans notre foi. Dieu demeure fidèle. On a vu que c'est la paix que nous avons eue. On a vu que Dieu n'a que de bons sentiments envers nous. Et pour nous aider à nous en souvenir, il donne à chaque chrétien qui reçoit Christ le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous parle sans cesse intérieurement en nous disant « Je t'aime, tu es mon enfant bien-aimé maintenant. Je t'aime, je t'ai adopté. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a que pardon et amour. Reviens à moi. Je n'ai que des bons sentiments à ton endroit. » Oui, il peut y avoir des corrections, mais c'est toujours pour te ramener dans cette relation intime d'amour. C'est jamais pour te rejeter. Et on a vu aussi, tu n'as pas à t'inquiéter pour le jour du jugement. Tu es sauvé si tu as reçu Christ. Il a pris ta punition sur lui-même. Te sens-tu en sécurité? On avait posé cette question. Une grande partie de la vie chrétienne, c'est de grandir dans cette sécurité que Dieu m'aime et qu'il ne me rejettera jamais. Et je me souviens, dans les premières années de ma vie chrétienne, j'avais beaucoup de misère avec ça. Puis je parlais à mon pasteur et je disais, j'ai vraiment peur de ne pas être sauvé. Et je lui demandais, toi, as-tu peur de que peut-être tu vas finir en enfer pareil, même si tu es déjà chrétien? Puis lui, il m'a donné une bonne réponse qui m'a beaucoup aidé. Il dit, avant, oui, mais avec les années, de moins en moins. Et aujourd'hui, non, je ne doute plus que je suis sauvé. Puis ça m'avait encouragé. Parce que c'est un peu ça que j'ai vécu. J'ai cette assurance, même si au début, j'avais de la misère à l'accepter. Et au fond, on pense, mais c'est parce que je sais que je suis pécheur, mais c'est un manque de confiance dans l'amour de Dieu. Mais avec le temps, avec le Saint-Esprit, avec l'aide des frères et sœurs, on finit par éliminer ces mensonges-là. Dieu ne t'aime pas. Dieu te pardonnera jamais, etc. On va arriver maintenant à notre dernier paragraphe. C'est que cette réconciliation avec Jésus-Christ nous équipe pour la vie dans le monde. Ça, c'est très important parce qu'on va parler des épreuves, ce que Paul appelle ici les tribulations. Et dans son temps, les tribulations étaient assez raides. Il pense, entre autres, aux persécutions. Il y avait de la violence contre les chrétiens, particulièrement contre les apôtres comme Paul. On ne les aimait pas et on trouvait qu'ils causaient des troubles dans les populations parce qu'ils annonçaient une nouvelle façon de comprendre Dieu qui était révolutionnaire. Et Paul s'est retrouvé souvent en prison, des fois comme victime de violence. À un moment donné, il dit dans la liste de ses tribulations, j'ai passé 24 heures dans l'abîme. Ça veut dire qu'à un moment donné, il était tombé d'un bateau parce qu'il allait prêcher. Des fois, il allait en bateau. Il y a eu un naufrage. Il a passé 24 heures au milieu de l'océan. Il a passé toute la nuit comme flottant dans la mer. Ça ne doit pas être le fun. Ça ne doit pas du tout être le fun. Il a vécu beaucoup de tribulations. Et aujourd'hui encore, les tribulations et les souffrances existent. Je sais qu'il y en a dans la vie de chacun d'entre nous, des souffrances. On peut aussi penser aux chrétiens dans des pays comme la Syrie. Je lisais cette semaine les paroles d'un pasteur, le pasteur Édouard, qui s'occupe d'une communauté chrétienne en Syrie. Et lui, c'est très difficile pour les églises en Syrie parce qu'il y a eu, je ne sais pas combien d'années de guerre civile. On en a beaucoup entendu parler dans les nouvelles. 11 années, peut-être? 11 années. Là, la guerre est terminée, mais il dit que la situation est pire maintenant à cause de l'économie qui s'est effondrée, l'inflation. Et pour les églises, penser que quand tu es chrétien et tu habites dans un pays comme la Syrie, probablement tu penses à une seule chose, c'est comment sortir de la Syrie le plus vite possible. Alors, ils perdent du monde parce que la vie est difficile. Mais non seulement ça, si tu es chrétien, tu es une minorité religieuse et tu peux être en danger parce que les groupes islamistes extrémistes sont toujours là et ils veulent tuer les chrétiens. Alors, pasteur Édouard écrit « La situation en Syrie est pire qu'avant. » Donc, c'est un pasteur. Aujourd'hui, il travaille, il cherche à faire vivre son église. La classe moyenne, il dit, est proche de la famine dans notre pays. Les gens cherchent à partir. La semaine dernière, une famille clé a quitté notre église. Ça nous a brisés, il dit. Puis c'est constamment que sa job, c'est de faire grossir l'église, mais le gros de son travail, c'est d'aider l'église à gérer les départs de familles qui ont eu leur visa pour partir, etc. C'est pas facile. Et il dit, quand la tempête sera terminée et qu'on va regarder vers le passé, nous verrons comment la main de Dieu était à l'œuvre parmi nous. Puis les yeux du pasteur Édouard se remplissent de larmes. Donc, c'est quelqu'un qui l'a rencontré, qui prenait des notes. Et il ajoute, « Pendant le pire de la crise, j'ai prêché des messages sur les promesses de Dieu. Mais j'ai appris ma leçon. Je vais arrêter de promettre un futur meilleur aux brebis. » Parce qu'il n'est pas venu, ce futur meilleur. Ce qu'il faut, il dit, je dois enseigner comment faire confiance à Dieu et à sa souveraineté et à expérimenter sa présence. Nous, ce qu'on a eu, c'est qu'on a expérimenté la lumière divine dans la noirceur. Donc, c'est quand même assez fort que finalement, les difficultés continuent. Puis finalement, il ne faut pas promettre un avenir meilleur parce que peut-être il ne va pas venir pendant la vie des personnes, mais plutôt apprends à voir la lumière de Dieu dans ton épreuve maintenant. Et ça, c'est la vie de beaucoup de chrétiens, de beaucoup d'églises aujourd'hui. Et c'est peut-être ce que tu ressens dans ta vie maintenant. Je ne te le souhaite pas. Je te souhaite un avenir meilleur. Mais c'est juste pour dire, quand Paul nous dit on se réjouit même de nos tribulations, il parle de ça. Il faut qu'on apprenne à traverser les épreuves de la vie dans la foi et pas dire, ah, je vis une épreuve, je viens d'avoir un désastre financier, c'est qu'au fond, peut-être que Dieu ne m'aimait pas. C'est pas comme ça qu'il faut penser en tant que chrétien. On a tellement vécu une réconciliation révolutionnaire par le sang de Christ que nos épreuves, nos mauvaises passes sont des signes que... Wow, qu'est-ce qui se passe? Je pense que j'ai trop pressé les boutons. Bon, on va juste laisser ça comme ça. On se rend compte que les épreuves peuvent être un signe de l'amour de Dieu même. Et il faut dire ça avec un peu de prudence. Mais Paul, lui, il dit carrément... je me réjouis, je me glorifie de mes détresses. Et ça, c'est important. Il s'est rendu compte que chaque épreuve, chaque bad luck, comme on dit, chaque contre-coup est une occasion pour Dieu de bâtir ma foi encore plus. Et je le remercie pour, et même... Je m'en glorifie. Ça veut dire que je vais même me vanter, il dit, de mes détresses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, se vanter de mes détresses? C'est presque de dire, wow, Dieu m'a donné l'honneur d'une telle difficulté. C'est peut-être parce qu'il me juge digne. Il me juge digne d'être capable de passer à travers et de permettre à ce que ma foi brille dans cette épreuve. Je me permets peut-être de rappeler une histoire que mon frère David Tracy m'a racontée une fois. Tu me corrigeras si je fais des erreurs, mais c'est une collègue de travail à toi qui avait reçu un diagnostic de cancer assez grave et sa réaction... C'était, voyez-vous, mes 20 minutes sont déjà écoulées. Alors, on va écourter. Hein? Oui, mais on veut faire des groupes, non? OK. C'est bon, OK. Tu me corrigeras, mais sa réaction au diagnostic... Et elle a dit, wow, j'ai hâte de voir comment ce que je vais passer va permettre à ce que des gens de ma famille se rapprochent de Dieu ou soient interpellés par mon témoignage. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'était une dame qui travaillait qui est maintenant guérie de son cancer. Qui travaillait dans la comptabilité est-ce que ça te revient? Oui? OK? Oui. J'oublie son nom, mais en tout cas, David était comme, mais j'en reviens pas. Elle me dit, mais j'ai hâte de voir comment le Seigneur va utiliser ma maladie. Et elle a témoigné à sa famille et en plus, Dieu l'a guéri par ses traitements. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez que je n'ai pas inventé, là. C'est juste qu'il avait oublié. Wow! Alors, aussi, je peux peut-être rajouter que en communauté, les épreuves qu'on vit ensemble, si on les partage dans la foi, peuvent être des occasions de... me vanter, mais c'est une manière un peu exagérée que Paul parle. C'est un juif, mais quelqu'un du Moyen-Orient, comme les Arabes, et ils sont très expansifs dans leur manière de penser. Quand il dit « je vais me glorifier même de mes détresses », ça veut dire que je ne vais pas avoir honte d'en parler parce qu'il y a quelque chose de bon malgré tout que Dieu est en train de faire. Et une église peut faire ça. Je me souviens d'un vidéo sur le témoignage que j'avais vu une fois. C'était une jeune femme qui travaillait dans un laboratoire et puis elle parlait avec une collègue, puis sa collègue dit, j'ai eu une très mauvaise fin de semaine. Une collègue qui n'était pas chrétienne, pas croyante, et la jeune femme était croyante, membre d'une église très active, et c'était une vidéo sur comment témoigner, comment être un chrétien contagieux, ou une chrétienne contagieuse, et puis elle dit, comment ça va? Puis la collègue dit, oh, ça va tellement mal, c'est comme mes problèmes de couple, là, c'est rendu au point de non-retour, c'est pas mal certain que je vais passer par le divorce. Et la chrétienne, qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est, ben tu sais, ça me touche parce que dans mon groupe maison, j'ai une sœur qui a passé par le divorce et puis on a cheminé ensemble et elle nous expliquait les difficultés qu'elle vivait puis on a prié pour elle et puis... en tout cas, elle a comme juste partagé que... Dans l'Église, on s'entraide même dans des tribulations comme ça. Et la madame a comme été, oh, wow! Et puis elle a dit, ben peut-être un jour, on pourrait t'inviter à notre groupe maison. Puis la madame dit, ben oui, peut-être. Et donc, bon, ça, c'était une mise en scène dans la vidéo sur comment une Église peut être témoigner de manière contagieuse dans la communauté. Mais voyez un peu comment on peut, même dans nos difficultés dont on pourrait avoir honte, il y a comme, on peut arriver à un point où on se dit, Dieu veut l'utiliser, donc je vais être capable d'en parler. Et même un échec personnel, même un péché grave, tu peux te repentir, tu peux être réhabilité dans ton Église. Et même ça, Dieu peut s'en servir pour aider quelqu'un d'autre qui un jour passe par le même échec. Donc, voilà un peu plusieurs choses qu'on pourrait dire sur « Je me glorifie même de mes tribulations ». C'est, on s'éloigne beaucoup ici de l'idée de la... L'évangile de la prospérité, où on dit... Merci. L'évangile de prospérité qui dit que finalement, la preuve que Dieu m'aime, c'est que je vais... que mes difficultés vont disparaître, puis que mes problèmes financiers vont disparaître. C'est... Paul nous indique qu'il faut être prêt même à l'inverse et que c'est souvent dans la difficulté qu'on va grandir dans la foi chrétienne et vivre l'amour de Dieu. Alors, voilà, on va arrêter là. La réconciliation que Jésus apporte nous prouve l'amour incroyable de Dieu, nous établit dans une sécurité et nous prépare pour la vie, surtout pour les difficultés. Je vous avais rappelé la semaine dernière, répondons par l'adoration. Et donc, les chants qu'on va chanter à la fin de la célébration, que ça vienne du cœur et que ce soit un remerciement. Si tu as de la misère avec ce que j'ai dit aujourd'hui, avec cette sécurité dans la paix de Dieu, on est là pour t'aider. On veut prier avec toi. Et je crois qu'on a le temps encore pour un groupe maison. La semaine dernière, c'était « As-tu déjà vécu une difficulté? » Et cette semaine... Vis-tu une difficulté où tu as besoin de prière, où Dieu veut te communiquer son amour et rendre ta foi plus forte? Raconte au groupe, priez ensemble. Donc, prenons un moment pour prier maintenant et puis je vais inviter Mylène à venir nous expliquer les petits groupes. Prions. Oui, Seigneur. J'ai comme l'impression de juste gratter la surface de ton amour ce matin. Mais je sais que je l'ai vécu. Et je sais que même dans les moments de ma vie où je ne le sens pas, eh bien, je suis complètement immergé dans ton amour. Et ce n'est pas parce que je suis Marc, mais c'est parce que comme chacun et chacune de mes frères et sœurs, je suis le bénéficiaire de ton initiative d'amour unilatéral. Tu es venu me chercher tel que j'étais. Tu m'as justifié. Et maintenant, tu me transformes jour après jour pour être plus fort dans ton amour. Puis c'est ça, c'est comme ça qu'on devient plus sain. Pour reprendre les mots de mon frère Jean-François à la retraite, devenir plus saint, c'est-à-dire plus dans la vie de Dieu et plus apte à aimer les autres, c'est tout d'abord être mieux connecté à ton amour. Puis ça, c'est toi qui le bâtis en nous. Et c'est aussi un sujet pour lequel on veut te remercier ce matin. Aide chacun d'entre nous à avancer dans ton amour. Amen.